Bonsoir. En tout cas, merci de m'avoir invité. Et c'est la troisième fois que je viens à Brive-la-Gaillarde dans le cadre du salon. Et vraiment, c'est vraiment formidable. Que les gens échangent, ils me racontent leur vie, je leur raconte un peu. La mienne, ils la liront dans le livre. Mais quelquefois, et je m'aperçois à quel point les gens ont de l'empathie pour moi, et ça me fait plaisir. Et beaucoup me parlent de 10%, bien entendu, mais aussi d'autres me parlent de leurs petits-enfants. Il y a beaucoup de grands-parents me disant, voilà, j'ai ma petite fille, elle veut être actrice. Qu'est-ce que vous en pensez? Je dis, si elle ne vit que pour ça, il faut qu'elle le fasse. Mais si c'est comme ça, parce qu'elle veut être connue, il ne faut pas. Et donc, alors, ils notent les cours de théâtre et tout ça. De temps en temps, mon assistant me dit, t'as donné trop ton mail et ton téléphone à des personnes. Parce qu'il te dit, en même temps, voilà, je ne suis pas le bon Dieu. Mais c'est vrai que quand je vois une grand-mère un peu paniquée parce qu'elle dit ma petite fille a 17 ans, elle veut arriver à Paris. Je lui dis, si elle a envie, il faut, mais en même temps, il faut qu'elle se protège par rapport à le métier d'actrice, c'est un métier très, très difficile. Et il y a beaucoup d'appelés et peu d'élus. Donc, voilà, quand c'est des techniciens, c'est très facile que des techniciens. Voilà. Donc, ça me fait plaisir d'être dans l'échange. Voilà. Moi, j'ai toujours transmis. Et parce que moi, j'ai eu des gens qui m'ont transmis. Dans le livre, je parle de Jean-Claude Brialy. C'est vrai que Jean-Claude Brialy m'a fait aimer les acteurs. Il m'a fait aimer vraiment les acteurs. J'ai été son agent pendant 20 ans. Je n'ai pas rigolé tous les jours avec lui. Mais bon, en même temps, il était tellement drôle, tellement intelligent. Mais il m'a fait rencontrer Arletty. Il m'a fait rencontrer Gabin. Donc, il m'a transmis l'amour que j'ai pour les acteurs. Il en est beaucoup redevable.
On est rentré tout de suite dans le vif du sujet. Effectivement, on est ici ensemble pour discuter de votre dictionnaire de ma vie. C'est le titre du livre que vous présentez ici à la foire. Et c'est vrai que ce qui m'a frappé tout de suite, c'est comme le titre le dit, un dictionnaire sur votre vie, sur plein d'étapes, plein de jalons qui ont construit votre parcours. Et c'est aussi un hommage aux acteurs et aux actrices. En fait, entre eux, vous faites le portrait de plein de personnes que vous avez rencontrées, avec qui vous avez travaillé. C'est important pour vous qu'il et elle fasse pleinement partie de cette sorte d'autobiographie, ce genre de dictionnaire.
Mais ça n'est pas une autobiographie. Mon autobiographie, elle était sortie, ça s'appelait Casino d'hiver. Et là, c'est une... En fait, c'est un livre qu'on m'a proposé. Je dis oui, il faut avoir du temps. J'ai quand même pas beaucoup de temps, mais on me dit il y aura quelqu'un pour vous aider. Je voudrais le saluer, c'est Guillaume Évin. Et je disais oui, mais bon, il faut du temps. Et en même temps, ce qui m'a plu, c'est que c'est un abécédaire, dont A, tout le monde allait penser que j'allais mettre amour. J'ai mis Angoulême. Et donc, parce que Angoulême est la ville de mes amours, mais de mon amour du cinéma. Et puis certains, vous avez le livre, il y a des choses un peu, c'est pas forcément évident, il y a des choses que j'ai bousculées. Voilà, c'est ça. Donc c'est des lettres, mais ça n'est pas une biographie comme dans Casino d'hiver. Mais ça montre aussi, je me suis un peu... Vous savez, j'ai l'âge où j'ai envie de dire des trucs que je n'ai pas forcément dit avant. Et que là, maintenant, je dis, c'est la liste de mes goûts et de mes dégoûts. Voilà. Et c'est vrai. Et que dans une autre époque, alors moi, tous mes assistants, mais les gens qui travaillent avec moi, me disent, mais tu commences à devenir un vieux con. Tu dis toujours, c'était mieux avant. On est de la même génération, mais c'est vrai que quelquefois, c'était mieux avant. La civilité, la courtoisie, le papier. Moi, j'ai besoin du papier. Moi, j'ai rangé l'autre fois chez moi toutes mes lettres, les lettres de Chéreau, les lettres de Claude Berry, et même les lettres de Marlène Dietrich. Maintenant, tout le monde s'envoie des mails et tout le monde s'envoie des textos. Qu'est-ce qui va rester? Et donc, moi, alors là, peut-être je suis un vieux con dans ce cas-là, mais moi, je suis content de garder, je suis content de pouvoir lire. Et en même temps, j'aime bien Wikipédia parce que on a en 3 minutes le titre d'un film qu'on recherche et que quelquefois, on se dit, mais attends, on tape, on le trouve tout de suite. Donc, il y a aussi des choses bien. Mais surtout, c'est le fait de la rapidité. Les choses sont trop rapides. On n'a plus le temps de... Et du reste, j'appartiens aussi à une génération, et moi j'ai beaucoup de la personne dans le public qui sont de ma génération. C'était l'époque des récompenses. On avait une récompense. D'avoir un truc, c'était une récompense. Maintenant, on veut tout tout de suite, et on n'arrive même pas à se rendre compte comment c'est bien d'obtenir quelque chose après un certain temps.
D'ailleurs, par rapport au métier d'acteur et d'actrice, pour revenir un peu effectivement au milieu du cinéma, c'est une réflexion que vous faites aussi sur les bouleversements de ce métier. Le rapport à la rapidité, notamment par rapport au casting
Ah ben maintenant, moi, je trouve que moi, j'étais quand même 10 ans casting director et j'étais 20 ans agent et je suis producteur. Moi, je ne serai plus agent maintenant. Hein. Parce que c'est trop compliqué, parce que maintenant, il y a... Moi, je me souviens, quand on discutait avec un producteur, on disait, ben voilà, je voudrais que paye tant Nathalie Baye. On voyait le producteur. Déjà, on se parlait, on se rencontrait. Je parle de ça dans les années 85. J'ai commencé en 85 d'être agent. Et puis après, on négociait. Et puis ensuite, on faisait le contrat. Maintenant, on appelle, et moi comme producteur, c'est à prendre ou à laisser. Moi, je n'ai jamais dit ça à un producteur lorsque j'étais agent. Parce que maintenant, il y a toute la concurrence des plateformes, il y a la concurrence. Tout ça fait qu'on n'a plus le temps de se parler et de même discuter. Et moi, et puis les mails. Quand on dit à un producteur, quand on est agent, qu'on dit à un producteur, ou le producteur dit à l'agent, tu te fous de ma gueule, je t'emmerde, comme ça, en parlant, c'est pas très grave. Mais quand vous l'écrivez, c'est très grave. Eh bien, tout ça, c'est dans ce monde-là où je trouve qu'il faut se reparler et que maintenant, on n'a plus le temps. Voilà. Mais même moi, dans mon métier, là, je commence lundi prochain une série de 6 épisodes. Un peu dans la lignée de 10%, puisque c'est réalisé par un des metteurs en scène de 10%, et c'est une série sur un cabaret, qui était inspiré du Crazy Horse, parce que quand j'étais chez Armédia, c'était à côté du Crazy Horse. Mais on s'est inspiré, c'est une fiction, et bien c'est un budget important, il y a 6 épisodes avec du spectacle, on tourne au Paradis Latin. Mais moi, je trouve ça compliqué maintenant en plus, les paroles sont pas les mêmes. Et je crois qu'il faut retourner à se dire, qu'on discute, qu'il y a une parole et qu'on sait plus. C'est très tranché maintenant. Et puis, pour les acteurs, alors pour un acteur, maintenant, c'est très compliqué, un jeune acteur. Il y a tellement de jeunes dans les cours de théâtre qui veulent être acteurs. Mais moi, quand j'étais agent ou casting, j'allais dans un acteur. Il y avait peut-être dans le cours Florent, qui était le cours à la mode, il y avait peut-être une centaine d'élèves, voire 150. Maintenant, ils sont 1000. Alors, quand vous rentrez dans cette école, alors moi, je pars en rage, là. J'ai même pas envie. Je dis, mais comment... c'est des boîtes à bac. C'est-à-dire qu'on s'en... En plus... Il y avait des maîtres, il y avait des professeurs de la Comédie Française, où il y avait Vitesse qui donnait des cours, c'était des maîtres. Maintenant, ce sont même plus des gens qui ont fait ce métier, enfin qui sont élèves, qui deviennent ensuite profs. Mais il faut une expérience, il faut avoir rencontré des faut avoir un parcours. Et donc, c'est compliqué. Et moi, quand on me demande des conseils, je dis aller dans un cours où il n'y a pas trop d'élèves. Parce que là, vous passerez plus souvent sur scène, tandis que lorsqu'on est dans un cours où on passe jamais, on écoute. Voilà, donc c'est un... Mais là, je suis pas négatif, je dis que quand j'ai des jeunes, alors en même temps, ceux qui sont doués, si vous voulez, pour expliquer, c'est plus dur de repérer quelqu'un de bien maintenant, dans un cours, parce qu'il y a trop d'obstructions, il y a trop de... Voilà, et qu'à de mon temps, là, mon assistant hurlerait en disant de ton temps, eh bien de mon temps, on avait le temps d'aller dans un cours, de repérer, de se dire, voilà, de les voir évoluer, de les voir devenir au début maladroit. Par exemple, dans un cours de théâtre, au début, si l'acteur n'est pas très doué, mais enfin n'est pas très doué, ne sait pas jouer, mais qui a une personnalité, vous revenez 3 mois après, s'il a compris, il y a le déclic. Et maintenant, est-ce qu'on aura le temps de faire ça ? Donc ça fait que souvent, dans les choses de télévision, vous voyez, qui passent avant les informations, les acteurs jouent tous très bien. Ils sont presque plus justes qu'à mon époque. Mais voilà, il y en a jamais qui est un peu dément ou qui est un peu... Voilà. Donc...
Ouais. Du métier. Et là, j'ai l'impression que vous me parlez déjà.
Ben oui, ben vous avez pas tort. C'était mon époque quand j'étais agent. Hein. Mais cela dit, il y a quand même, ça reste, la nature humaine est toujours la même. Hein. La rivalité sont toujours les mêmes. Dans un bureau, on peut faire avoir l'impression d'aimer son partenaire et de pas l'aimer du tout. Ça, c'est dans tout, dans les hôpitaux, c'est comme ça. Chez les notaires, c'est comme ça. Donc voilà, ça, c'est la nature humaine. Et ça, c'est le fond de 10%. Et en même temps, donc là, on est en train d'écrire un film qui avance bien, où ça sera un film qui sera le florilège de tout ce qu'on a vécu à travers une situation où Andrea revient des États-Unis et décide de faire son premier film. Elle ne veut plus être agent et elle fait son premier film. Et là, elle va essayer de récupérer tous ses anciens partenaires de l'agence. Et Mathias, qui a toujours été le rival, qui va tout d'un coup faire semblant de l'aider, mais rêver qu'elle se plante. Voilà, donc on retrouve quand même ce qu'il y a dans 10%. Donc voilà, mais ça va se tourner, à mon avis, ça se tournera en fin d'année prochaine. Septembre 24, voilà.
Dans le dessinard de ma vie, vous revenez aussi beaucoup de lettre en lettre sur l'origine quand même de votre passion pour le cinéma, à travers ce livre. Comment vous êtes tombé dans le cinéma ?
Enfin, je ne sais pas. Moi, je n'aimais pas le football. Ah oui, comme spectateur, je pensais que petit... Petit, en fin de compte, c'est le cinéma qui m'a permis de réaliser, même lorsque j'étais gamin. Moi, j'aimais pas du tout aller faire me battre, faire du football, jouer aux billes. Moi, j'aimais lire. Même quand j'avais 8 ans, je me souviens, dans la cour de récréation, il y avait des colosses. Alors, il y avait peut-être pas le harcèlement. Moi, j'ai pas connu ce harcèlement. Alors, pourtant, j'avais un cheveu sur la langue, on aurait pu se moquer de moi. J'ai tout de suite eu du respect parce que comme il y avait on était à Oulga, c'était pas non plus la cité, hein, mais il y avait les fils d'ouvriers de Dives-sur-Mer qui était une ville communiste. Donc moi, c'était des gamins un peu plus prolo. Et eux, ils me respectaient toujours parce que comme je les aidais à faire leurs devoirs, j'étais un peu protégé. Non, c'est pas Fayot. C'est eux qui avaient besoin de moi. Moi, à la limite. Et donc, j'ai toujours eu un respect. Et surtout, très jeune, ils ont vu que j'aimais le spectacle, j'aimais écouter des chansons de mon époque, j'aimais faire du théâtre avec des élèves. Voilà, donc ça a toujours été ça. Donc, je n'ai pas eu... Et si vous voulez, on sait très bien que les enfants sont cruels, mais peut-être qu'ils étaient moins cruels que maintenant. Et c'est vrai que moi, je me souviens que mon ami au CE1, au CE1, au CE1, au CM1, au CE2, c'était un petit Parisien qui s'appelait Jean-Marc Pré, et ses parents étaient divorcés. Donc on l'avait mis à Oulgat chez quelqu'un. Donc c'était le seul dont les enfants, dont les parents étaient divorcés. Le seul dans la classe. Donc il était considéré... Parigo, tête de veau, enfin bon, les trucs, c'était plutôt ça quand même. Hein. Et le gamin était, et donc je me suis attaché à lui. C'était peut-être en fin de compte mon premier amour, j'en sais rien. Mais en tout cas, et voilà. Et donc avec lui, et je l'ai revu j'ai jamais revu en vrai, mais quand mon livre est sorti, Casino d'hiver, où je parlais de cette histoire, il a appris par quelqu'un qu'il vit en Hollande. Donc il m'a appelé, il me dit, tu te souviens, toi, je suis ton premier amour, et t'es mon premier amour. Le mec, il a 60 ans, il vit à Maastricht. Je lui dis, oui, bon. J'ai dit, on va pas se voir, non, mais enfin bon. Et, Mais c'était drôle parce que je lui dis, mais vous êtes où là ? Il me dit, voilà, il m'a raconté sa vie, il s'était marié, tout ça. Bon, on s'est parlé 50 ans après. Alors, j'aurais pas sûr reconnu dans la rue. Hein. Et il m'a dit, mais moi, je me souviens, Dominique, qu'on jouait dans la cour à faire un film. Je faisais l'imitation de la caméra et toi, tu faisais l'acteur. Je m'en souvenais absolument pas. Voilà, donc pour vous dire que ça, je suis pas né dedans parce que je suis pas un enfant du spectacle. Et du reste, mes parents étaient tout le temps étonnés parce que mon frère est écrivain. Mais qu'est-ce qu'on a fait pour avoir des enfants comme ça ? Parce que voilà, ils étaient commerçants. Ils auraient voulu que mon frère soit avocat et que moi je sois notaire. J'en sais rien. Mais donc voilà, comme les parents. Donc souvent ma mère qui a vécu jusqu'à 99 ans. Elle m'a dit, mais vous, ça vient d'où tout ça ? Voilà. Donc voilà, donc c'est pour ça que quand il y a des jeunes qui viennent me voir et que je les sens investis, inspirés, et là, je leur dis jamais de ne baisser pas les bras, mais sachez que c'est difficile.
Voilà. À quel moment, alors, cette passion enfantine qui passe par le jeu, qui passe aussi, je crois, par la télévision, le fait de voir des premiers films à la télé, comment on passe de ça, de spectateur à la cour de récré, au métier, à la professionnalisation.
Alors, hein, où... Non, alors moi, c'est pour ça que je veux rendre hommage au professeur. Mm-hmm. C'est que j'ai eu un professeur de français qui était génial, qui adorait la littérature. Moi, j'ai eu ma Brigitte Macron à moi. Hein. Elle m'a fait lire, cette prof, elle s'appelait Madame Schoenfeld. Elle n'a pas essayé de m'embrasser, hein, pas du tout. Ça n'a pas été le blé en herbe, mais elle m'a donné envie de lire. Elle m'a fait découvrir les auteurs. Elle m'a permis de venir à Paris. On était un groupe d'élèves. C'était une prof géniale. Alors, en même temps, elle était. Je replace ça dans le contexte des années 70. Elle était divorcée à Deauville. On la regardait bizarrement. Hein. C'était presque une femme libre. C'était l'époque quand même où il y avait eu l'histoire de Gabriel Roussier. On était en plein dedans. Une femme prof avec un enfant pas de père venant à Deauville, qui était un peu bon chic, bon genre, à l'époque. Hein, c'était vraiment... Donc tout d'un coup, elle était déjà une femme moderne. Et nous, elle nous faisait lire. On allait passer des week-ends chez elle. Et puis, on faisait du théâtre. Et franchement, et quand je suis arrivé à Paris, j'ai réussi le centre de la rue Blanche pour en classe de Rézy mise en scène, elle m'a trouvé tout de suite un boulot à la Comédie Française comme figurant pour travailler, pour gagner ma vie. Et moi, mes parents, on aurait pu subvenir à mes besoins un certain temps. J'ai dit non, je ne vous demande rien. Je suis à Paris, je fais de la figuration à la Comédie Française. Et c'est là où j'ai vu Adjani pour la première fois. Et c'est là où... Et après, bon. Mais pour vous dire que c'est les profs, c'est le lycée. C'est le lycée qui m'a, voilà, qui m'a permis de pouvoir... cela dit, j'avais déjà... J'étais très curieux. Quand j'avais de l'argent de poche, ma marraine qui avait un peu d'argent à Paris, j'allais la voir et j'allais au théâtre. J'étais au théâtre à 14 ans, 13-14 ans. J'allais voir des spectacles, j'attendais. Voilà. Mais plus par... Mes parents, ils travaillaient trop. Mais mes parents, ils ne nous empêchaient pas. Mes parents, pendant la guerre, ils étaient à Vire, ça a été bombardé. Ils n'ont pas pu avoir de jeunesse. Ils n'ont pas pu avoir de spectacle. Ils n'ont plus rien. Du reste, ils étaient... Parce que Vire, ça a été rasé. Hein. Et donc, ma mère, qui aurait voulu être certainement... institutrice et tout ça, elle s'est retrouvée commerçante, mais donc elle nous a poussé, mon frère et moi, à faire... voilà. Donc c'est important, les parcours, mais c'est important d'avoir du bonheur de ses parents.
Il y a deux émotions qui reviennent beaucoup dans votre livre, et c'est l'enthousiasme, vous parlez de votre enthousiasme, vous parlez aussi du doute, de la place du doute dans votre vie. Je me demandais si ces deux émotions, avec toute l'expérience que vous avez aujourd'hui, est-ce qu'elles vous habitent encore ?
Heureusement. Ben moi, je suis enthousiaste parce que je suis toujours un peu positif. C'est aussi mon frère j'ai un frère jumeau, il n'est que négatif. Moi, le bon ADN. Mon frère est très, très, très intériorisé, plutôt, oui, pas dépressif, mais oui. Alors moi, j'ai jamais été, mais même quand on était petit, Quand on était petit, au bout de 2 jours, j'avais plus d'argent de poche. Mon frère en avait toujours. Et il me faisait des crédits. Rendez-vous compte, un frère qui fait du crédit à son frère. Cela dit, donc, il a toujours. Ben, je suis en train, j'ai dit, mais jette ton porte-monnaie. Et en même temps, il me protégeait. Il voyait que j'allais cotiser, mais en fin de compte, moi, j'ai appelé ma société, mon voisin de production. Parce que quand j'étais gamin, enfin, quand mes parents avaient ce commerce à Houlgate, qui était un petit supermarché, et ma mère et mes parents travaillaient beaucoup, donc j'étais toujours chez les voisins. Mais les voisins, c'était plutôt la famille Groseille, c'était pas... Et ma mère me disait, mais fais attention à ce que tu manges, tu pourras pas l'eau du robinet chez eux, enfin bon. Et moi, j'adorais faire tous les interdits que ma mère me disait. Donc voilà, j'avais de l'enthousiasme sur les gens. Et les doutes, ben c'est les doutes, j'ai toujours des doutes sur mes capacités, sur mon travail, c'est-à-dire est-ce que j'ai bien accompli. Et quand j'étais agent, moi le matin, c'est pour ça que j'ai beaucoup grossi en étant agent, parce que je me disais, je me compensais par la nourriture en me disant tiens aujourd'hui j'ai pas fait ça, tel acteur il y a 6 mois qu'il a pas travaillé. J'étais le réceptacle de toutes les angoisses de tout le monde. Et là ça créait des doutes. Mais en même temps... Oui, moi je travaille tous les jours, je m'occupe d'une cinquantaine de personnes, ils travaillent, mais il y en a un qui travaille pas et c'est peut-être à lui que je dois avoir consacré plus de temps. Mais vous savez, quand quelqu'un, une actrice a le mauvais âge ou elle a moins de travail, parce que tout d'un coup, elle pense qu'elle a pris 10 ans sur la figure, ce qui est une erreur. Mais tout d'un coup, elle commence à dire, tiens, je vais faire la chirurgie esthétique. Elle vous le fait dans le dos. Et je la vois arriver, mais qu'est-ce que tu as pris? Ah ben, je voulais un coup de jeunesse. Non, moi, j'ai pas un coup de jeunesse. Tu vas avoir des problèmes pour travailler et qu'elle travaille plus. Ben, je me dis, elle aurait mieux fait de garder son visage. Et ça, c'est un problème terrible qui était à mon époque chez les actrices. Maintenant, elles en sont revenues parce qu'il y a tellement eu de dégâts que maintenant, elles font attention. Mais les actrices américaines, certaines se sont abîmées le visage. Et moi, j'étais très amie avec Danielle Darrieux, qui a fait la plus belle carrière d'une actrice. Elle a commencé à 13 ans. Elle a joué jusqu'à 90 ans. Et Danielle Darrieux, un jour, on était sur un tournage, je ne dirais pas l'actrice, et elle me disait, Dominique, mais pourquoi elle fait ça? Je lui demande, Danielle, pourquoi elle a fait ça à son visage? Elle me dit, il faut passer le mauvais âge dans notre métier. Mais le mauvais âge, il est de plus en plus reculé maintenant. À l'époque, maintenant, il y a des rôles pour les femmes de 70 ans qui ont des très beaux rôles. À l'époque, c'était plus compliqué. Passer 50 ans, alors que 50 ans, c'est extraordinaire pour une femme. C'est plus compliqué. Donc ça, c'est positif dans notre pays.
Un des problèmes aussi, c'est qu'on va écrire un rôle de femme de 70 ans, par exemple, et on va la faire interpréter par une actrice beaucoup plus jeune. Ça, c'est quelque chose qu'on voit pas mal.
Non. Maintenant, en France, on n'a pas trop à se plaindre parce qu'il y a quand même une grande... pérennité chez les actrices. Elles peuvent travailler le plus longtemps possible. Il y a des rôles quand même. Mais en Amérique, c'est terrible. En Amérique, à un moment donné, c'est compliqué. Alors, il y en a 2-3 comme Meryl Streep qui est tellement géniale qu'elle travaillera toute sa vie. Mais il y en a pour lesquelles c'est compliqué.
On parlait d'enthousiasme aussi, de votre enthousiasme. Il y a un passage dans votre dictionnaire autour de la création du Festival d'Angoulême. On sent aussi l'excitation de la naissance de ce festival, qui va devenir votre festival. Racontez-nous un peu, ça paraît aussi très simple, ça paraît très instinctif et très immédiat. Racontez-nous un peu la création de ce festival.
Alors déjà, c'est pas très loin d'Angoulême. Hein. Vous pouvez venir, hein. C'est fin août. Il y a 60 à 80 films en 5 jours. Et en même temps, c'est très accessible parce que moi, je veux faire un festival populaire. Donc c'est 25 euros pour 10 films. 10 films qui ne sont pas sortis. C'est-à-dire les films qui sortent maintenant, ils sont passés à Angoulême. Et franchement, c'est ça qui me... Comme vous dites, la transmission, pour moi, c'est ça. C'est la plus belle chose de ma vie, c'est d'avoir fait ça. parce que tout d'un coup, d'abord, c'est un peu, on n'est pas très loin d'ici, c'est des gens que j'aime bien. Je les vois en 16 ans, on voyait des petits gamins au début venir. Maintenant, ils ont plus de 20 ans, je les ai vus tout petits. Alors, certains ont voulu faire du cinéma. Donc, c'est très émouvant d'avoir vu grandir ces jeunes qui voulaient des autographes, des vedettes. Et quand maintenant, on voit, il y en a un qui est avocat et d'autres qui continuent à venir grâce au cinéma. Non, pour dire que, ben oui, ça me plaît vraiment. Et si je me disais maintenant, tu n'es plus producteur et tu choisis, tu ne peux plus faire l'un ou l'autre, je choisirais le Festival d'Angoulême. Parce qu'on est avec le public, on voit des films. Moi, je vois 80 à 100 films avant de les choisir. Et je ne fais pas le festival seul. Hein. Je tiens à préciser qu'il y a Marie-France Brière, qui est une femme démente, aussi démente que moi. Et on s'entend très bien. Pourtant, on a des coups de gueule terribles. Mais on s'aime beaucoup parce qu'elle, elle a été la grande papesse des variétés. Et puis, elle a fait Taratata, elle a fait Fort Bayard. Elle a été la reine du spectacle vivant à France 2. Enfin, c'était Antenne 2 et TF1. Et puis, à un moment donné, en prenant sa retraite, elle a dit « Je ne veux pas m'ennuyer, il faut que je fasse quelque chose. » Et c'est elle qui a eu l'idée du Festival d'Angoulême. Elle est venue me voir. Et à l'époque, donc c'était en 2007 ou 2008, oui, c'est la 16e année. Donc au début, tout le monde s'est dit... Alors à l'époque, j'étais très soutien de Ségolène Royal. C'était une autre vie. Hein. Je vais dire un truc terrible, mais j'ai envie de vous le dire. Et Dieu sait si je l'aime... Enfin, je l'ai bien aimé maintenant, c'est compliqué quand même. Et j'ai rêvé qu'elle avait quitté Hanouna pour remplacer Chantal Goya dans les spectacles. Je vous jure que c'est vrai. Dans mon rêve, il y avait Hollande, j'ai failli lui dire que je me réveillais, que Chantal Goya dit « je suis trop âgée », elle appelle Ségolène pour faire. Je jure que c'est un rêve, je ne peux pas inventer un truc pareil. C'était pas un cauchemar, mais ça a été un rêve. Et voilà, et donc à l'époque, quand j'étais soutien, et que franchement, au début, elle voulait son festival de cinéma. Il y avait le festival de la BD. Et franchement, elle nous a aidés une année. Et puis après, quand on n'est pas d'accord avec elle, elle ne l'a pas bien pris. Donc, elle m'a mis des bâtons dans les roues. Je ne l'ai jamais revue. Je suis fâché avec elle parce qu'on ne prend pas une ville en otage parce qu'on veut régler le compte de quelqu'un. C'est le contraire de la politique. Donc voilà, donc on a eu un moment difficile. On a failli arrêter au bout de la 3e édition. Et là, comme Bertrand Delanoë était maire de Paris et que Bertrand Delanoë est un ami et un homme que je respecte énormément, il était le patron des villes francophones. Il avait une subvention obligatoire pour défendre la francophonie. Et voilà. Et donc, il a su qu'il y avait le festival francophone d'Angoulême et il nous a sauvés. Et il m'avait dit, mais pourquoi tu n'es pas venu au début? Ben, je dis, mais j'étais amoureux de Ségolène. Mais t'as vu? Voilà.
Vous consacrez d'ailleurs une entrée au président de la République, à la lettre P. Ça m'a intrigué, je veux commenter. C'était assez inattendu. Là, vous parlez de différents personnages politiques. Est-ce que c'est une manière aussi de raconter les liens, les ponts entre le cinéma et le pouvoir?
Ben, le pouvoir, oui, bien sûr, mais... Mais bon, là, on n'est pas fait pour faire de la politique, mais moi, j'ai quand même... Moi, je suis très proche de Lynn Renault, donc j'ai connu Chirac. Et c'est vrai que Chirac, lui, ça ne l'intéressait pas trop. Mais en même temps, quand on était allé le voir pour des choses, j'étais agent à l'époque, il disait, mais moi, je ne sais pas, mais je vous fais confiance. Et bon, c'était intelligent. Sarkozy, je l'ai très peu vu. Hollande, bien sûr, je l'ai vu. Et après, c'est le président actuel. J'apprécie beaucoup sa femme. Et c'est comme mon ancienne prof. Et franchement, à chaque fois que j'ai demandé... Non, et j'aime beaucoup Rima, la ministre de la Culture, qui est venue hier. Et je peux vous dire, faites-moi confiance, j'en ai connu. Hein. Elle est comme ça. Parce qu'elle est bénie. Vous savez, tous ceux qui ont commencé avec Bertrand Delanoë, c'est un bébé de Bertrand Delanoë. Elle a commencé à la mairie de Paris. Et tous ceux qui ont travaillé, ils sont vraiment bien. Il avait le sens de trouver les gens. Et, sauf Anne Hidalgo, là, elle aurait mieux fait de se tromper. Chacun a sa Ségolène, hein, je veux dire. Rima est une femme formidable. Et je l'ai connue quand elle était à New York. Elle s'occupait elle était au consulat de France. Donc voilà, je pense qu'on a une bonne ministre de la Culture. Voilà.
Quand vous évoquiez aussi le travail au Festival Grand Poulain, le fait que vous regardez des dizaines et des dizaines de films pour les programmer, du coup, vous avez une vue d'ensemble sur la création contemporaine, les films qui se fabriquent aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez partager avec nous, je ne sais pas, des lignes de force, des tendances que vous remarquez dans ce qui se fait aujourd'hui, dans ce que les jeunes réalisateurs et réalisatrices ont envie de raconter du monde ?
Non, en tout cas, ce qui était étonnant, on a mis 11 films en compétition, parce qu'on n'arrivait pas, d'habitude c'est 10, mais on se dit, il y en a trop, on est obligé d'en rajouter un, c'est bien. Alors il y a énormément, contrairement à ce que quelquefois on dit, beaucoup de femmes en metteur en scène. Sur les 11, je ne sais plus combien il y avait, je pense qu'il y avait 7 films réalisés par des femmes, donc ça c'est super. Et il y a aussi beaucoup de films aussi. Alors, il y a eu la vague beaucoup banlieue où des jeunes filles, toutes ces films où des jeunes de femmes de banlieue essaient de trouver leur rang. Il y a eu toute cette époque. Cette année, c'était beaucoup de rapport avec la mer. Et le film qui est merveilleux, que je vous conseille d'aller voir, c'est L'histoire de ma mère avec Agnès Jaoui, qui est un film extraordinaire, qui a eu le prix. Et un autre film qui va sortir, c'est Le Temps d'aimer, de Katel Kileveré, qui est aussi un film extraordinaire. Je trouve que les films sentimentaux reviennent. Voilà. Et par exemple, voilà. Donc, mais c'est vrai que de temps en temps, on sent... Et puis cette année, il y avait beaucoup, beaucoup de rôles incarnés par des femmes. Donc voilà. Donc c'est vrai qu'on sent, c'est comme dans la mode ou quand des obsessions... Et en tout cas, et moi je le dis, c'est que là, il y a plein de choses qui ne vont pas en France, mais le CNC, c'est quand même un endroit extraordinaire, parce que nous, on est quand même protégés. Sur tous les billets vendus, il y a un impôt qui vient, qu'on se prélève, sur tous les films américains qui reviennent au cinéma français. C'est extraordinaire. Dans aucun autre pays, il y a ça. L'Europe pourrait se dire, le cinéma italien est mort, hein. On n'a presque plus, à part les 3-4 qu'on connaît, le cinéma allemand aussi, l'Espagne. Et nous, en France, on est vivants parce qu'on a des quotas, on est protégés. Là, il y a l'exception culturelle. Et ça, et quand on voit que Berlusconi est un prédateur, j'espère qu'il est en enfer, c'est lui qui a tué le cinéma italien. L'Italie, c'était le pays du cinéma. Il y avait les plus grands acteurs, les plus grands metteurs en scène. Il n'y a plus de films. Quand vous allez à Cinecittà, qui était... Moi, quand j'ai commencé, c'est là qu'on faisait tout le cinéma. Ils ont tout donné aux Américains parce que, justement, il n'y avait pas cette loi sur chaque ticket vendu. Quand, par exemple, le film Barbie, vous avez vu ce qu'il a fait comme entrée en France ? Prélevé l'impôt pour défendre le cinéma français. Et voilà. Eh bien, c'est pour ça que c'est, de temps en temps... Voilà, ça permet de faire des recherches, de donner de l'argent à des distributeurs, mais en France, je ne fais pas cocorico, mais en France, dans n'importe quelle ville, il y a des salles de cinéma. Allez en Italie. Vous n'en avez pas, hein. Il y a encore la salle du catéchisme en Italie, où il y a le vieux curé qui fait encore des... Non, mais c'était en France. Vous allez à Bourganeuf, il y a une salle de cinéma. Ici, il y a une salle de cinéma, le CGR, et un cinéma d'auteur. Et donc, voilà. Donc, franchement, la France, par rapport au cinéma, par rapport aux subventions, c'est pas... En plus, ça rapporte beaucoup d'argent. Nous, on fait travailler beaucoup de gens. Donc, voilà. Donc, c'est pas un truc de vieux con, ça.
Non, mais ça, c'est aussi notre histoire. C'est aussi la décentralisation, le fait que dans un théâtre, un cinéma, dans des villes de tout type de taille, c'est vrai.
Mais
que
ouais,
c'est
ouais.
Aussi comme ça que des jeunes Dominiques vont au cinéma.
Mais bien sûr.
Et ensuite deviennent réalisateurs ou producteurs. C'est grâce aussi à ça, à la puissance du cinéma et des salles de cinéma qui sont partout.
Mais moi, vous voyez, pour Angoulême, moi, je trouve que toute l'année, on est absent, puisqu'on arrive en mai, à Angoulême, oui. On fait des rendez-vous dans l'année avec les élus pour trouver de l'argent, pour surtout essayer de leur faire monter un peu plus la subvention. Donc, on est obligé de faire du charme. Donc, on vient 3-4 fois dans l'année. Et moi, j'ai dit, mais moi, ça... Oui, donc moi, ça ne me suffit pas. Mais à partir de mai, juin, juillet, on est à Angoulême. Et donc, je me suis dit, mais je voudrais un lien toute l'année avec Angoulême. Donc, la semaine dernière, on a commencé un ciné-club. Et toutes les 5 semaines, j'irai à Angoulême présenter un film que j'aime bien pour les faire découvrir. Ils avaient fait deux éditions, deux seules fois, personne n'était venu. Mais bon, en même temps, ils ne savaient pas. Et moi, j'ai dit, ben, je veux bien venir, je veux que la salle soit pleine. Il y avait 160 personnes dans la salle. Et j'aurais montré un film de William Wyler sur Rumeur. Rumeur, un film génial avec Audrey Hepburn et Shirley MacLaine qui parle de deux femmes profs qui ont une relation un peu ambiguë et toute la ville va penser qu'elles sont lesbiennes et vont les détruire. Eh bien, ce film, peu de gens le connaissent, bon, sauf les cinéphiles. Je l'ai présenté, ben, je peux vous dire que les gens étaient médusés. Et là, je vais représenter un film le 11 décembre. Et je pense que j'ai fidélisé. Voilà. Et donc je n'ai pas encore choisi le film. Mais pour montrer des films. Et bon, la dernière fois, il y avait plutôt cette même population que nous. Je veux qu'il y ait des jeunes. Donc, je vais demander que les profs envoient les élèves. Parce qu'ils voient la télé sur les tablettes. Ils voient les films sur les tablettes. Il faut qu'ils aillent en salle voir des films. Parce qu'une fois qu'on est venu en salle, on y retourne. Voilà. Alors, quelque part, merci Barbie. Parce que Barbie, les gens sont vraiment retournés en salle. Et Oppenheimer aussi. Donc, voilà.
Merci.
Formidable, formidable.
C'est intéressant aussi parce que c'est un film à la fois d'auteur, de création.
Complètement.
C'est assez laboratoire, il essaie des choses esthétiquement. Et en même temps, c'est un film populaire et qui plaît aux jeunes.
Énormément.
Il y a pas mal d'ados et c'est un film qui touche un public très large.
Donc voilà, c'est-à-dire à vos enfants, vos petits-enfants, il faut qu'ils laissent tomber les tablettes et qu'ils viennent. En plus, maintenant, il y a des cartes. Hein. Une carte de UGC ou machin, c'est abordable. Quand on me dit c'est trop cher, je sais pas le prix de... Moi, je paye pas au cinéma, mais... mais je sais pas combien c'est. Mais en tout cas, je suis sûr que... Hein ? Combien ? Il y a des tarifs jeunes. Donc voilà, donc je me dis, mais c'est vrai que quand on est en salle, et puis en salle, en salle, c'est un rite aussi, on est tous ensemble, on est ensemble, on regarde, comme disait Godard au cinéma, on lève la tête, à la télévision, on la baisse. Mais c'est vrai, on regarde l'écran en haut, et ça crée une communion.
On va conclure cet entretien avec une. Peut-être terminer sur. On a déjà égrené quelques noms de films, et j'avais envie de finir sur. Vos films à vous, vos films cultes, vos films refuges, vous en parlez dans le dictionnaire, votre liste, parce que vous n'arrivez pas à choisir. Mais là, si on devait terminer cette rencontre avec un ou deux conseils, vous nous avez déjà donné au cours de la conversation, mais terminer sur un ou deux titres à...
Eh bien, il y a un film du reste, tout le monde a été surpris, je vais mettre ce film dans la liste. Parce que moi, l'an passé, à Angoulême, il y a un film que j'ai adoré, Le sixième enfant, qui est un peu sorti, pas comme il que je ne sais pas si les gens l'ont. C'est un grand film. Et je trouve que ce film n'a pas eu la carrière qu'il mérite. Parce que c'est un jeune cinéaste. En plus, nous, à Angoulême, on les voit arriver. Donc, avec le temps, 16 ans, on les a vus grandir. Et puis, on les voit arriver, ils sont tremblants de montrer leur premier film. Et après, ils ont de l'assurance. Et lui, il est très émouvant, ce garçon. Et ce film, quand il doit peut-être passer sur Canal, voyez-le, c'est un grand film. Et il y a Sarah Giraudeau, qui est une immense actrice. Et voilà, donc ça, c'est un film que je vous recommande. Et dans les classiques, bon, ben moi, si je devais partir sur une île déserte, j'emmènerais Les Enfants du Paradis, quand même. Et l'année dernière, je vais vous dire autre chose. Donc, toujours à essayer de montrer un peu l'histoire du cinéma, enfin, les grandes rencontres du cinéma. J'ai dit à Angoulême, on va faire des projections en plein air. Alors là, vous savez, en même temps, il faut se battre tout le temps contre tout le monde, contre les élus. Ah ben non, c'est pas possible. Les autorisations, il y a les poubelles qui passent à telle heure. On peut pas. Et il y a les fautes, il y a les chaises. Il faut quelqu'un, il faut prendre du personnel supplémentaire. Enfin, moi, je leur rentre dedans. J'en ai rien à foutre. Moi, je veux les places, les 200 places, avec des transats, pour que les gens... Alors après, il dit oui, mais c'était pas prévu qu'il y ait un projecteur. Enfin bon, on y arrive. Mais avec le temps, alors maintenant, eh bien, la salle était complète. Enfin, la place, c'était devant la place du palais de justice. La salle était complète. Enfin, c'était partout. Et l'espace était complet. Et il y avait il faisait beau. Les gens, il n'y avait pas un bruit. Il y avait la copie était rénovée. Je pense que c'est pour des gosses. Il y avait des gamins de 12-13 ans. Je pense que ça leur souviendra toute leur vie. En plus, il y avait la lune. Je pense que ça, j'ai envie de continuer comme ça. Eh bien, les enfants du paradis, on dit qu'on le voit. Ça dure 3 heures quand même. Eh bien, personne n'a bougé. Voilà. Donc, pour vous dire qu'il faut toujours... Moi, je dis la nostalgie n'est plus ce qu'elle était, disait Simone Signoret. Mais il faut se dire qu'on a des chefs-d'œuvre hein, dans le cinéma. Et se dire que... Alors, parce qu'il y a l'obstacle aussi du noir et blanc. Hein. Ah non, moi, je ne regarde pas. Moi, j'ai pendant la Covid... Après, on va arrêter parce que j'ai l'impression de parler trop de moi. Donc, la Covid, on restait chez soi. Donc, moi, je me suis dit, je n'ai pas regardé tous les soirs les médecins, la femme médecin qui ressemblait à Nicole Garcia, qui disait oui, la Covid. L'autre qui disait qu'il n'était pas d'accord. J'ai dit, personne ne savait, mais enfin, ils étaient tous là. Ils étaient tombés. Ces médecins étaient tombés fous, amoureux des plateaux. Hein. Et ils étaient heureux, ils sentaient. Voilà. Donc ça, c'était très agaçant. Dans un moment donné, j'arrête. Moi, j'allais seulement à 19h pour applaudir les médecins, mais franchement, ça... Et donc, j'ai revu que des films en noir et blanc anciens, tous les Duvivier, tous les Carnet, même des metteurs en scène moins connus. Je me suis dit, je vais dans cet autre temps, où on ne savait même pas ce que c'était la Covid, mais il y avait d'autres maladies. Et donc, voilà... Et j'avais mon petit cousin qui habitait dans le studio parce que fallait quand même s'il m'arrivait un problème. Et bon, en même temps, il savait pas où il allait, donc il habitait dans le studio. Et il a regardé des séries pendant 2 mois. Il a jamais vu un film. Et un jour, je lui dis, tu sortiras pas tant que tu n'auras pas vu un film en noir et blanc. Je dis, tu sors pas, je te prends les clés du studio, tu vas ailleurs. Eh bien, il a vu, et j'ai dit, mais c'est quand même insensé. Il n'avait pas vu un film en noir et blanc. Et après, il a trouvé que, ah oui, ben, il a fallu la Covid, il l'enfermait presque pour qu'il voit le film. Et donc, il faut dire que le noir et blanc, c'est pas désagréable, hein, c'est même très beau. Hein. Donc, voilà.
On terminera là-dessus. Merci beaucoup.
Et venez Angoulême.